Le journal Camille Manière, bonjour.
Bonjour. Il était chargé de mener le Royaume-Uni vers le Brexit. Le ministre David Davis démissionne. Il fragilise ainsi un peu plus la position de Theresa May face aux tenants d'un Brexit dur. Nous serons en ligne avec Aude Soufi à Londres dès le début de ce journal.
Dans votre journal également, deux frères ennemis sur la voie de la réconciliation dans la Corne de l'Afrique. L'Éthiopie et l'Érythrée rétablissent des relations diplomatiques. Pourront-ils en finir avec 30 années de séparation et de guerre ? Analyse à suivre de Nabila Hamel.
Emmanuel Macron convoque le Congrès à Versailles. Les parlementaires d'opposition traînent les pieds. Et l'opposition française, qu'en dit-elle ? La baisse du chef de l'État dans les sondages d'opinion devrait l'inciter à muscler son discours social. C'est ce que nous dira le politologue Stéphane Fourquet.
Les syndicats des finances publiques alertent sur des milliers de suppressions de postes imminents à Bercy. Le gouvernement pourrait annoncer mercredi la disparition de 18 à 22 000 postes de fonctionnaires au fisc principalement.
Où en est l'enquête sur les attentats du 13 novembre ? Quel calendrier pour un procès attendu par des centaines de parties civiles, les victimes, leurs proches et les associations sont reçus justement jusqu'à jeudi par le juge d'instruction pour faire le point. Et puis dans la deuxième heure de ces matins, Olivia.
Du mouvement MeToo au congrès de Versailles, le regard du sociologue Jean-Pierre Le Goff sur la France d'aujourd'hui. Il sera avec nous jusqu'à 8h30. Puis nous aurons avec nous en direct d'Avignon le metteur en scène Thomas Joly. Il a fait l'ouverture dans la cour d'honneur ce week-end.
L'unité gouvernementale n'aura donc pas tenu plus de 3 jours à Londres. Vendredi, Theresa May se félicitait d'avoir rallié ses ministres à sa ligne douce sur le Brexit. Ce matin, elle encaisse la démission de David Davis, ministre en charge justement du Brexit et l'un des plus fervents partisans de la ligne dure. On va tenter de comprendre ce revirement, peut-être ce début d'éclatement du gouvernement, Theresa May. Avec vous, Aude Soufi, bonjour.
Bonjour Camille.
Vous êtes la correspondante de France Culture à Londres où la démission du ministre David Davis a surpris tout le monde, il faut bien le dire. Comment est-ce que David Davis justement a justifié cette démission dans la lettre qu'il a adressée à la Première ministre ?
Eh bien, il n'explique pas vraiment pourquoi. Il a donné son accord vendredi pour finalement démissionner dimanche soir. Mais ce qu'il dit, c'est que le plan qu'a présenté Theresa May à son cabinet ne va pas assez loin dans la rupture avec l'Union européenne. Ce livre blanc que la Première ministre doit en principe faire adopter par le Parlement cette semaine prévoit une zone de libre-échange et un nouveau modèle douanier. Pour David Davis, qui a toujours été partisan d'un divorce complet avec Bruxelles, c'est trop proche de ce qui existe à l'heure actuelle. Dans sa lettre de démission, il souligne avoir souvent été en désaccord avec la Première ministre, mais avoir persévéré, convaincu qu'il était toujours possible de respecter le résultat du référendum. Ce n'est plus le cas. L'intérêt national exige un ministre du Brexit qui croit fermement en votre approche, conclut-il, pas seulement un conscrit réticent. Très rapidement, la Première ministre lui a répondu, par courrier également, le remerciant chaleureusement, tout en disant regretter sa décision à seulement 8 mois de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et c'est sûr que c'est un coup très dur pour Theresa May qui se félicitait vendredi d'avoir obtenu le soutien de tous les membres du gouvernement. 2 secrétaires d'État ont eux aussi claqué la porte hier soir très tard et d'autres pourraient suivre. Certains députés de la majorité encouragent par exemple le ministre des Affaires étrangères Boris Johnson à lui emboîter le pas. L'opposition, elle, appelle déjà à de nouvelles élections.
Aude Soufi à Londres, donc merci à vous. J'ajoute que toujours au Royaume-Uni, on apprenait hier le décès de cette femme originaire de la région de Salisbury qui, avec son époux, avait été intoxiquée au poison russe, le Novichok. Son compagnon lui reste hospitalisé dans un état critique et Scotland Yard qui ignore toujours comment les deux Britanniques ont pu être contaminés. Ils n'avaient en apparence aucun lien, sauf géographique, avec l'ex-espion Sergei Skripal et sa fille Yulia, eux aussi empoisonnés au Novichok début mars, mais désormais hors d'affaires. Entre Londres et Paris, à présent, l'homme d'affaires franco-algérien Alexandre Djouri va-t-il être extradé vers la France ? La décision est entre les mains ce lundi des juges britanniques qui vont recevoir cette figure clé de l'enquête sur les soupçons de financement libyen dans la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Rappel des faits et point d'étape sur la procédure avec Marina Daras.
Arrêté en janvier à l'aéroport d'Heathrow à la suite d'un mandat d'arrêt européen émis par la justice française, Alexandre Djouri avait été libéré contre paiement d'une caution d'1,13 million d'euros. Son audience d'extradition avait été repoussée au 9 juillet et il est depuis assigné à résidence et sous contrôle judiciaire. Alexandre Djouri détient de nombreuses connexions au sein des réseaux politiques en Europe et en Afrique et est soupçonné d'avoir été le lien entre Nicolas Sarkozy et l'ancien président libyen Muammar Kadhafi et son fils Saif al-Islam. La justice française enquête sur le financement obscur de la campagne de Nicolas Sarkozy depuis 2013 et réclame l'extradition du franco-algérien qui avait réussi jusqu'alors à se soustraire à la justice. Il est recherché pour utilisation de faux documents, corruption active d'un agent public étranger et de complot en vue de détourner des fonds publics ainsi que 3 accusations de blanchiment d'argent. Son avocat, Aaron Watkins, a déclaré que son client s'opposerait à son extradition car la demande était politiquement motivée et que l'affaire française n'avait pas suffisamment progressé. Si les juges britanniques décident de l'extrader, Alexandre Djouri n'échappera sans doute pas à une mise en examen et sera probablement placé en détention provisoire de peur de le voir prendre la fuite une nouvelle fois.
Correspondance depuis Londres de Marina Daras. Exit la séparation des pouvoirs, disparu le poste de Premier ministre en Turquie. C'est un président tout puissant qui va prêter serment cet après-midi à Ankara, Recep Tayyip Erdogan, qui entame un second mandat reconductible depuis la tentative de coup d'État déjouée en 2016. Il n'aura fait que renforcer la présidentialisation du système politique turc à son propre avantage.
8h06 sur France Culture, la suite du journal de Camille Magnat. Retour à présent sur des images que l'on pensait ne plus jamais revoir dans la Corne de l'Afrique.
Oui, image d'une foule dans les rues d'Asmara, la capitale de l'Érythrée, venue hier acclamer le premier ministre éthiopien. Les deux pays ont été séparés et opposés depuis plus de 30 ans par des conflits de voisinage. Hier, leurs deux dirigeants se sont donc rencontrés à Asmara et ils ont décidé de rétablir leurs relations diplomatiques, Nabila Hamel.
Un bon début pour les frères ennemis de la Corne de l'Afrique qui se sont également mis d'accord sur l'ouverture des liaisons aériennes et la libre circulation entre les deux pays. Ce climat de réconciliation a été voulu par le nouveau Premier ministre éthiopien lorsqu'il a pris ses fonctions en avril dernier. Abiy Ahmed avait promis une ouverture et des réformes au niveau intérieur et comme priorité diplomatique, la paix avec l'Érythrée. Une déclaration un peu plus précise, détendra le climat entre Addis Abeba et Asmara. L'Éthiopie affichera en effet son intention de céder à son voisin le territoire qu'elle occupe en dépit d'une décision de la justice internationale sur les différents frontaliers. Pour le moment, cette région, dont la ville symbole est Badme, n'a enregistré aucun départ des troupes éthiopiennes, mais il y a eu des échanges de délégations entre les deux capitales avant le sommet d'hier. Premier résultat, le rétablissement de leurs relations diplomatiques. L'Éthiopie et l'Érythrée se sont fait la guerre entre 1998 et 2000. Le conflit frontalier a fait 80 000 morts, sans compter les plus anciennes hostilités nées en 1993 après la déclaration d'indépendance de l'Érythrée, ancienne province de l'Éthiopie.
Nabila Hamel, un dialogue renoué cette fois entre Madrid et Barcelone. C'est aujourd'hui que le chef du gouvernement socialiste Pedro Sanchez va recevoir le président indépendantiste de Catalogne, Quim Torra. Une rencontre qui était tout simplement impensable du temps où le conservateur Mariano Rajoy dirigeait l'Espagne. Au Brésil, enfin, l'ex-président Lula reste en prison. Pourtant, hier, à la surprise générale, un juge avait ordonné la libération du leader de la gauche brésilienne qui avait été condamné, je vous le rappelle, à 12 ans de prison pour corruption. Oui, mais voilà, il n'aura fallu que quelques heures pour qu'un autre magistrat d'une autre juridiction ne casse cette décision et confirme donc le maintien de Lula derrière les barreaux.
8h09 sur France Culture, c'est un rendez-vous qu'Emmanuel Macron veut installer chaque année dans notre calendrier politique. Il réunit à 15h cet après-midi les parlementaires en congrès à Versailles pour leur délivrer un discours de politique générale, Camille Magnard.
Oui, une adresse à la nation qui aura lieu donc une fois par an pour tracer des perspectives, expliquons à l'Élysée. Une partie des députés de l'opposition de droite, les Républicains et le groupe France Insoumise n'y iront pas. Ils ont décidé de boycotter donc ce congrès. Le discours, lui, va intervenir au moment où l'exécutif, il faut bien dire, dévisse dans les sondages. Seuls 32% des Français font confiance au chef de l'État, selon l'Institut Kantar. C'est seulement 5 points de plus que François Hollande après 14 mois de pouvoir. Alors ce discours du congrès de Versailles peut-il changer la donne? Ça n'a rien d'évident. En tout cas, c'est l'avis du politologue Jérôme Fourquet. Il est directeur du département opinion à l'IFOP.
Alors il y a une forme de paradoxe, hein, puisque on voit dans les enquêtes d'opinion que ce type de réforme, hein, introduction d'une dose de proportionnelle, réduction du nombre d'élus, à l'instar de ce qui avait été le cas sur le non-cumul ou la limitation dans le temps des mandats, ces mesures sont très populaires dans le sens où elles sont souhaitées et attendues par les Français, mais ce ne sont pas forcément des attentes prioritaires. Dit autrement, les Français se félicitent que cela soit fait, mais n'en font pas l'alpha et l'oméga du jugement qu'ils vont porter sur l'action gouvernementale. Donc il n'y a pas forcément à brève échéance de risque, si ce n'est que de fâcher une partie des parlementaires à qui vous allez demander de faire harakiri, quelque part, de se faire harakiri. Mais d'un autre côté, il n'y a pas non plus de bénéfices sonnants et trébuchants importants à attendre en termes de popularité, hein, puisque les Français estiment que c'est des choses qui doivent être faites, qu'il faut moderniser la démocratie française, mais que ces arbitrages politiciens, quelque part, sont des arbitrages qui s'apparentent à une espèce de cuisine ou une tambouille politicienne et que l'essentiel de leurs préoccupations est ailleurs. Donc ça peut être un argument positif, notamment quand il s'agira de cocher les promesses de campagne qui auront été tenues en disant « voilà, j'avais pris des engagements devant vous et à date, tel et tel engagement ont été remplis », mais ça ne remplira pas à l'inverse, le vide ou les demandes de transformation plus profondes que les Français attendent.
Le politologue Jérôme Fourquet, interrogé par Frédéric Saïs. 2 millions d'euros en moins dans les caisses du Rassemblement National, le successeur du FN qui dénonce cette décision de juge d'instruction prise à la fin du mois de juin. Les juges qui instruisent ce dossier sur les emplois présumés fictifs d'assistants parlementaires Front National au Parlement européen. Ils ont donc décidé de saisir ces 2 millions d'euros d'argent public qui devaient être versés aux partis liés aux résultats des dernières élections législatives. Le Rassemblement National dénonce une décision de justice militante et un gouvernement des juges qui veut tuer le Rassemblement National. Au ministère de l'économie et plus particulièrement au fisc, ce sont les syndicats qui tirent la sonnette d'alarme. Selon Solidaires, notamment, le gouvernement va annoncer mercredi des suppressions de postes massives à Bercy, des milliers de postes de fonctionnaires qui seraient concernés dans le cadre de la réduction des dépenses de l'État. Célia Kiray.
Les responsables du syndicat solidaire des finances publiques sont très inquiets. Selon eux, 18 à 20 000 postes d'agents des impôts pourraient être supprimés d'ici la fin du quinquennat. C'est une estimation. Ce syndicat sait que le ministère des Finances n'est pas jugé prioritaire par le gouvernement. À la différence de l'intérieur, la justice ou la défense, or 50 000 postes de fonctionnaires doivent être supprimés. Les agents des impôts supporteraient donc à eux seuls près de la moitié des efforts demandés. Cela semble logique car avec la mise en place de l'impôt à la source et la numérisation de certains services, le gouvernement estime que des économies sont possibles dans ce ministère. Mercredi, après le Conseil des ministres, Gérald Darmanin va réunir à Bercy les responsables de son administration. Selon le syndicat Solidaire, c'est à ce moment-là que des décisions seront confirmées. Le syndicat prévoit d'ailleurs une action à Bercy en fin de matinée pour protester. Les finances publiques ont déjà subi 38 000 suppressions de postes depuis 2002.
Un point d'étape à présent dans l'enquête tentaculaire sur les attentats du 13 novembre 2015. Des centaines de parties civiles, principalement des victimes ou des proches de victimes décédées, vont être reçues à partir d'aujourd'hui jusqu'à jeudi par les juges d'instruction. Le juge Christophe Tessier qui est en charge de cette enquête. Les rencontres se font à l'école militaire de Paris et c'est la troisième fois que les parties civiles sont réunies. L'occasion de faire le point donc sur les dernières avancées de l'enquête, mais aussi sur le calendrier jusqu'au procès. Charles Piret.
Le premier juge d'instruction en charge du dossier, Christophe Tessier, l'avait promis, il tiendrait régulièrement informer les victimes et leurs familles. Les près de 2000 parties civiles ont donc été une nouvelle fois convoquées, réparties sur trois après-midi, avec au programme exposé du juge et réponse à leurs questions. Un moment important pour beaucoup, comme pour Philippe Duperron par exemple, président de l'association 13-11-15, Fraternité et Vérité, et père d'un fils décédé au Bataclan.
Ce sont les occasions pour nous d'avoir une information sur l'avancement de la procédure. En fait, la recherche de la vérité est l'un des buts que poursuit notre association et c'est essentiel pour la reconstruction des victimes que d'essayer de comprendre et d'obtenir le maximum d'informations sur ce qui s'est passé et la manière dont ça s'est passé.
Pour cette troisième rencontre, il devrait être question des dernières mises en examen dans ce dossier. Ils sont 11 désormais, de la récente audition et de la revendication du principal d'entre eux, seul survivant des commandos, Salah Abdeslam, du calendrier à venir et la perspective d'un procès pour 2020, et puis des quelques pistes encore à explorer, l'origine des armes par exemple, même si certaines questions sur les préparatifs au sein de Daesh notamment resteront vraisemblablement sans réponse, les commanditaires étant désormais présumés morts en Syrie.
Charlotte Piret, on va terminer ce journal, bien sûr, avec un coup d'œil sur la météo, toujours aussi ensoleillée et chaude pour aujourd'hui. Ce matin, les températures dépassent partout les 22 degrés. Cet après-midi, on va aller jusqu'à 35 sur le Languedoc, 26 degrés à Biarritz, 27 à Strasbourg, 28 à Paris comme à Brest, et autour de 30 degrés à peu près partout dans le centre du pays.